Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Académie et à l'émission Un jour dans l'histoire. Franck Attard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous venez de très loin puisque vous enseignez aux États-Unis, mais aussi à Sciences Po à Paris. Vous vous baladez entre Paris et New York, c'est cela ?
Et Los Angeles.
Et Los Angeles. Vous êtes diplômé de Harvard et de Cambridge. Vous êtes historien. Vous avez été aussi un ancien élève de François Furet, du regretté François Furet. Nous y reviendrons. Vous avez publié l'année dernière, Franck Attard, un ouvrage au Seuil intitulé « Sobrement aux armes citoyens ». Alors, il y a naturellement beaucoup derrière cette expression, derrière cette exclamation. Pour tout un chacun, ces quelques mots aux armes citoyens renvoient aux paroles de la Marseillaise et donc à la Révolution française. Mais nous avons tendance à oublier que la Révolution française eut une dimension européenne, une dimension profondément internationale, puisque la France révolutionnaire décida ce 20 avril 1792, la date autour de laquelle tourne votre ouvrage, donc de faire la guerre à l'Autriche. Et en lisant votre livre, en fait, j'ai pensé à l'actualité, j'ai pensé aux révolutions arabes qui secouent actuellement le Maghreb et une partie du Mashrek. Et effectivement, nous nous rendons compte de la dimension aussi internationale de tels événements. Alors pourquoi, ce sera ma première question, Franck Attard, pourquoi cet aspect international est-il écarté ou bien quelque peu oublié de notre mémoire sur la Révolution ?
Alors je crois qu'il y a une raison majeure, en tout cas dans l'historiographie française. Parce que si on se penche sur l'historiographie de la Révolution française en général et sur l'étude de la question de la guerre révolutionnaire en particulier, on voit que la majeure partie des travaux se sont concentrés sur le 19e siècle. C'est-à-dire, grosso modo, avant la guerre franco-prussienne de 1870, avant la Première Guerre mondiale. Et donc, les travaux sur les origines de la guerre révolutionnaire ont été ensuite éclipsés par les travaux qui ont porté sur la recherche des causes de conflits ayant eu des conséquences encore plus considérables que ce conflit-ci. Alors, cela étant dit, il y a aussi une raison idéologique qui fait que l'on a tendance, en France en particulier, à ne pas vouloir se pencher avec trop d'insistance sur les origines de la guerre de 1792. C'est que nous avons vécu longtemps dans le mythe que la Révolution française n'avait agi contre l'Autriche que dans la mesure où elle avait été contrainte, dans ce que l'on appellerait aujourd'hui une posture de légitime défense, de réagir face à cette internationale des rois, face à l'Europe monarchique, qui menaçait de l'anéantir. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles ne peuvent le paraître dans cette théorie simplifiée, puisque on sait que c'est l'Assemblée nationale législative qui a déclaré la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire à l'empereur d'Autriche. Et donc tout l'effort que j'ai essayé de faire au travers de cet ouvrage, c'est essayer de comprendre pourquoi. Et de remettre donc la déclaration de guerre à la place que je considère être sa place centrale dans la Révolution française, puisque c'est elle qui conditionne le caractère européen de la Révolution. Il est important ce caractère-là aussi, puisqu'il débute en 92, il ne s'achève qu'en 1815 sur le champ de bataille de Waterloo.
Alors nous allons revenir bien évidemment sur le fond de votre ouvrage. Je voudrais malgré tout ouvrir une parenthèse en lisant, je connais bien l'œuvre de François Furet, nous avons fait une émission ici avec Mona Ozouf sur son œuvre et nous sommes attachés naturellement à sa mémoire. Et vous avez été un élève de François Furet et ça se voit, j'allais dire, ça se lit, puisque vous avez à la fois l'amour des textes, la connaissance des textes. Les textes d'époque sont très présents, hein, c'est 90% de vos références. Mais il y a toute une partie également, j'allais dire, classique. Vous reprenez à la fois Michelet, mais aussi Jaurès. Vous reprenez tous ceux qui ont interprété la Révolution, Albert Sorel. On sent, vous avez été marqué par l'œuvre de François Furet.
J'ai été marqué, je crois, par François Furet lui-même. Je l'ai rencontré dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire qu'un jour que je sortais d'un cours, j'ai décidé d'aller taper à la porte du petit bureau qu'il avait rue Jean Calvin, juste derrière la rue d'Ulm. Et donc, il m'a accueilli très gentiment. J'ai demandé si je pouvais travailler avec lui sur la Révolution française, d'abord dans le cadre d'un mémoire de DEA, puis ensuite éventuellement pour faire une thèse. Et je lui ai dit surtout que je ne connaissais rien à la Révolution française. Et donc, il m'a accueilli très gentiment et m'a dit que si je voulais une porte d'entrée vers la Révolution, il fallait que je commence à lire l'histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès. Donc, j'ai lu l'histoire de la Révolution française et à partir de ce moment-là, je lui ai proposé un plan sur le sujet qu'il m'avait indiqué, qui devait être défriché, qui était justement les origines politiques et idéologiques de la guerre de 92. Alors, François Furet, son œuvre elle-même, vous voyez bien qu'elle a eu un impact, puisque vous l'avez décelé dans l'ouvrage. Alors, elle a eu un impact à plusieurs points de vue. D'abord, bien évidemment, la lecture de ses ouvrages, mais je crois, au-delà de ça, une certaine façon d'aborder la Révolution. D'abord, se demander ce qu'est le fait révolutionnaire lui-même, c'est-à-dire ce que François Furet considérait comme étant un surinvestissement du politique. Le politique qui, en général, se charge de la gestion de la cité, le surinvestissement politique qui fait que, par le politique, on entend changer la société et changer l'homme. Et le surinvestissement révolutionnaire dans le cadre de la Révolution française a quelque chose de supplémentaire, c'est qu'on y introduit la dimension de la raison. Puisque vous savez que François Furet s'est longtemps demandé quelle date il fallait assigner à l'événement révolutionnaire, quelle borne chronologique. Donc, il proposait plusieurs dates d'entrée, 1770, par référence à Turgot, 1774, l'avènement de Louis XVI, ou 1789, l'année que nous connaissons tous. Et puis, il proposait différentes dates de clôture, qui pouvaient être 1799, l'avènement de Bonaparte, qui pouvait être 1815, Waterloo, ou qui pouvait être 1880, c'est-à-dire l'affermissement de la Troisième République, voire même dire que la Révolution française se poursuivait toujours aujourd'hui, avec sa phase de désinvestissement du politique.
François Furet a écrit La Révolution, justement, de
1770 à 1880, voilà. Dans son volume de l'histoire de France, voilà. Hachette, avec le roi Ladurie, Duby et Maurice Agulon.
Oui, c'était donc c'est une vision longue des choses. Or, vous, vraiment, vous êtes intéressé à un aspect et nous ne sommes pas dans une réflexion sur le long terme. Alors que, par exemple, un Albert Sorel, lui, réfléchissait davantage sur le long terme et posait une forme de continuité entre les conflits sous la monarchie et le conflit qu'il y eut sous la Révolution.
Alors ça, je voudrais tempérer cet aspect de deux manières. La première, en disant qu'il s'agit d'un travail donc universitaire pour lequel j'étais contraint à des dates. Donc François Furet m'avait dit, c'est entre 1791 et 1792. Manque dans l'ouvrage la première partie de la thèse, qui est un panorama géopolitique de l'Europe à l'époque de la Révolution, mais non seulement à l'époque de la Révolution, mais qui remonte en amont un petit peu dans l'optique sorélienne, c'est-à-dire pour expliquer, non pas là dans l'optique sorélienne pure qui serait le conflit entre la France et la Maison d'Autriche, mais qui est aussi une volonté d'essayer de comprendre l'événement dans une plus longue durée. Et ensuite, vous le voyez peut-être dans la conclusion, de le projeter dans ce que seront ses conséquences dans le futur, puisque les conséquences de cet événement-là vont être colossales, puisque implicitement, vous voyez que je les porte jusqu'aux deux conflits armés qui vont secouer le vieux continent en 1914 et en 1939.
Alors, venons-en justement aux faits. Est-ce que vous pourriez rappeler pour nos auditeurs en quelques mots les aspects chronologiques de cette affaire ? Parce qu'au fond, c'est le roi qui a déclaré la guerre à l'Autriche.
Si on veut formellement, c'est Louis XVI qui vient le 20 avril 1792 à l'Assemblée nationale demander aux députés de déclarer la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Oui, ça c'est les faits indiscutables. Alors maintenant, chronologiquement, on peut remonter. Alors où souhaitez-vous que nous remontions ? Parce que nous pouvons remonter très en amont.
Remontons, allez, sur les derniers mois, 1791, 1792.
Alors, remontons alors au lendemain de la fuite royale.
À Varennes.
À Varennes. Donc, on sait que le roi, nous connaissons tous l'épisode sur lequel, je pense, il n'est pas besoin de revenir. Et donc, se pose un problème à ce moment-là, à la Révolution française. Que faire de ce monarque qui n'a pas, aux yeux des révolutionnaires, joué le jeu constitutionnel ? Le jeu constitutionnel qui se prépare, puisque comme vous le savez, les constituants sont dans la phase de rédaction de ce qui sera la première constitution écrite française, qui sera achevée en septembre 1791. Donc que fait-on du roi ? Est-ce qu'on l'exclut de l'édifice que l'on est en train de bâtir, comme certains souhaitent le faire ? Et ce sont ces mêmes personnes-là que l'on va retrouver à la pointe du combat pour la guerre, c'est-à-dire un combat qui, aussi en filigrane, est un combat pour le républicanisme, c'est-à-dire en finir avec la monarchie, ou est-ce qu'on réintègre le roi dans le corpus que l'on est en train de mettre en place, comme le suggère ce que l'on appelle les modérés, les feuillants. Alors, je crois que c'est à partir de là, autour de ce débat-là, que progressivement, il va y avoir une dérive qui va nous amener vers le 20 avril 1792.
La façon dont vous procédez est intéressante parce que, une fois que vous avez présenté les aspects chronologiques de cette affaire, et encore une fois, ils sont courts puisqu'il y a moins d'un an entre la fuite à Varennes, donc en juin 1791, et la déclaration de guerre, vous présentez en quelque sorte par le menu, si vous me permettez l'expression, tous les aspects du mouvement révolutionnaire. Et au fond, cette courte période permet à la fois de comprendre le processus révolutionnaire, la place de la raison qui est importante depuis la philosophie des Lumières, mais d'un autre côté aussi, une place très importante de mécanismes qu'on va retrouver tout au long du 19e siècle, mais aussi du 20e siècle.
Oui. Alors, si nous revenons à François Furet, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'une des questions que se posait aussi François Furet, c'était celle de la recherche de ce que l'on peut appeler le centre de gravité de la Révolution. Et en particulier sur cette question fondamentale qui était celle de son basculement entre ce que les historiens ont décrit comme ces deux phases, pour simplifier, 89 et 93. Comment est-on passé de la Révolution de 89 ? Qui est une expérience de constitutionnalisme apparemment pacifique, comment on passe de cela à la terreur? Et deuxième question, qui est une question fondamentale, comment en si peu de temps la France parvient à se débarrasser d'une triple construction qu'elle a charriée sur un passé historique long, la monarchie, la société d'ordre, la société dominée par la noblesse, et le rapport entre l'Église et l'État. Et donc, je crois que sur ces quelques mois où se déroule le débat sur la guerre, on arrive à recentrer ce point de gravité qui nous permet de comprendre comment la France bascule.
Est-ce qu'il y a un plan déterminé au fond ? Quelle est la situation tout d'abord peut-être de cette chambre ? Nous sommes en 1791. À vous lire, il y a quand même une hétérogénéité.
Plus que cela, c'est une chambre qui entre en session le 1er octobre 1791. Cette assemblée législative. Comme vous le savez, les anciens députés de la Constituante n'y sont pas rééligibles, puisque Robespierre a fait voter une loi disposant que ceux qui ont donné la Constitution à la France doivent se retirer pour un temps de la vie politique, en tout cas de la vie parlementaire. Qui sont les hommes qui arrivent à l'Assemblée législative ? Ce sont des hommes relativement jeunes, ce sont des hommes qui ne sont pas habitués aux affaires politiques de dimension nationale. Et si on veut essayer d'établir une sorte de répartition politique de l'Assemblée, on aurait grosso modo 20% qui s'affilient au club des Jacobins, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler l'aile gauche de l'Assemblée, qui est celle qui va réclamer la guerre. On a 34% qui vont plutôt vers les feuillants, c'est-à-dire ce que l'on peut appeler les constitutionnalistes. Et on a 46% de l'Assemblée qui ne s'affilie à aucun club. C'est-à-dire 46% de ce que beaucoup d'historiens ont décrit comme des indécis. Et si on veut comprendre comment va fonctionner ce marais, avec un anachronisme parce qu'on n'appelle pas encore cela le marais, mais si on veut comprendre comment ces 46% ont fonctionné, il faut savoir que, un, ils savent eux-mêmes que leur base électorale a été une base électorale étroite. Ils ont été élus par moins de 10% de la population française. Donc ils sont à la recherche de titres de légitimité. Et vous allez voir qu'au cours de ces quelques mois, ils ne vont avoir de cesse de collecter ces titres de légitimité-là. Et deuxièmement, comme ils sont indécis, ils vont avoir tendance à se laisser porter par ceux qui, de la manière la plus vocale, vont flatter leur quête de titres de légitimité, et ce sera l'aile gauche de l'Assemblée.
Alors, dans cette répartition, il y a un parti qui va se distinguer, c'est le parti de Brissot. C'est ce que nous allons voir, Franck Attard, après un court instant.
Écoutez l'histoire de la ratatouille, ce ragoût de légumes qui embaume le midi. L'origine du mot est déjà tout un plat. Chacun de ses composants et condiments, aubergines, tomates, courgettes, poivrons, oignons et autres, ont une origine amusante et intéressante à découvrir, où l'histoire, la grande, n'est jamais très éloignée. La ratatouille ou les avatars de la mondialisation des légumes, une émission de notre chroniqueur gastronomique Jean Vito à télécharger sur le site de Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois Franck Attard, auteur du livre Aux armes citoyens, naissance et fonction du bellicisme révolutionnaire, un livre paru aux éditions du Seuil. Nous sommes à la recherche, enfin nous ne sommes pas à la recherche, nous l'avons trouvé, le centre de gravité de la Révolution, donc la déclaration de guerre. Mais comme vous le signalez en début d'émission, nous cherchons à savoir et à comprendre pourquoi et comment sommes-nous arrivés à cette déclaration de guerre du roi, poussée en quelque sorte par cette assemblée. Alors dans cette assemblée, il y a un parti qui se distingue. D'ailleurs, vous citez François Furet, vous dites pour François Furet, l'homme de la guerre fut Brissot.
Oui, incontestablement. Alors, je ne sais pas si on doit parler de parti au sens, en tout cas, où la sociologie politique contemporaine entend les partis politiques. C'est un rassemblement de personnes qui partagent un certain nombre de thèmes communs à un moment, c'est-à-dire une analyse de la situation politique du royaume. Comme je vous l'ai déjà indiqué aussi, peut-être l'idée que la révolution ne doit pas s'achever, mais doit se poursuivre de manière plus radicale, en particulier que la monarchie doit être mise de côté pour laisser la place à un régime républicain. Et tous ces hommes sont unis autour de la figure centrale de Jacques-Pierre Brissot, qui incontestablement est celui qui va mener la campagne belliciste à la législative. Je veux dire, la campagne belliciste s'ouvre par le discours du 20 octobre 1791, qui est celui par lequel Brissot lance la guerre dans l'arène politique révolutionnaire. Alors que, si on analyse ce qu'avait été l'attitude des constituants vis-à-vis de la question de la guerre, les constituants, lorsqu'ils ont été confrontés à la perspective d'un engagement militaire concret, c'est-à-dire lorsque, je résume très rapidement l'événement, lorsque en 1790, l'Espagne et la Grande-Bretagne manquent d'en venir aux mains à propos d'un incident naval, le roi Louis XVI décide d'armer 14 navires qui vont se porter au secours de l'Espagne, qui est liée à l'époque par la France, parce que l'on appelle le pacte de famille. Immédiatement levée de boucliers des constituants qui votent ce que l'on appelle la déclaration de paix au monde, en disant que la France n'entreprendra jamais de guerre de conquête et ne se portera jamais au-devant d'événements armés, outre, bien évidemment, l'hypothèse où elle est à se défendre d'une agression. Et vous voyez qu'en quelques mois, on va passer de cette posture, qui est une posture qu'on pourrait qualifier une posture pacifiste, tout à fait, on va passer à une posture ouvertement belliqueuse.
Et si les auditeurs avaient une caméra, ils nous auraient vu sourire. Quel est le prétexte pour Brissot ? Quel est le prétexte de la guerre ? Comment justifier une guerre ? Est-ce, au fond, tout de suite une guerre idéologique ? Ou il y a un prétexte politique, ou les deux?
Prétexte, alors, est-ce que vous entendez par prétexte ce dont Brissot se sert pour se justifier au regard de l'extérieur? Dans ce cas-là, Brissot fait une construction politique qui est assez complexe. Nous sommes dans une période où, du fait des événements révolutionnaires, la France est en proie à de grands désordres. Donc, Brissot se dit... Nous arrivons à un point nodal de la Révolution où il existe une certaine lassitude, parce que forcément, nous savons que la nature humaine, même si elle peut être emballée par des événements révolutionnaires, au bout d'un moment, va aspirer à un retour à un certain ordre et à un certain calme. Donc, Brissot doit désigner les responsables des désordres. Et ces responsables des désordres, il va d'abord les trouver à l'intérieur, des ennemis intérieurs, qui vont être les prêtres réfractaires, qui vont être les nobles, et il faut les associer aussi à des ennemis extérieurs dans le cadre d'un grand complot. Et ces ennemis extérieurs, c'est la coalition des rois. Donc il va mettre en place une mécanique où l'ennemi intérieur est lié à l'ennemi extérieur, et donc en abattant l'ennemi extérieur, on obtient la paix au-dedans. Voilà la justification de la guerre selon Brissot.
Donc les émigrés ont une place déterminante également.
Alors l'émigration est aux côtés de l'international des rois, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Parce que lorsqu'on analyse la situation à l'époque, on se rend compte que les souverains se méfient comme d'une guigne des émigrés de Koblenz. On les reçoit poliment, parfois on n'hésite pas à les éconduire, comme lorsque le prince d'Artois se porte au-devant de l'empereur d'Autriche, qui refuse tout simplement de le recevoir. On délie parcimonieusement sa bourse pour les aider à entretenir des armées d'opérettes. Mais là où les émigrés vont jouer dans le sens de Brissot, c'est que eux, par leur déclaration, par leur, je vais dire, leur bellicisme ostentatoire aussi, auquel pourtant ils ne peuvent donner aucune substance, aucune consistance derrière, eh bien, ça va fournir un prétexte de choix aux Brissotins pour dire, voyez, non seulement nous avons l'international des rois, mais nous avons à côté d'eux ceux qui ont déserté la nation et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de revenir ici et de faire refleurir le lys sur le sang des patriotes.
Mais est-ce que l'international des rois n'est-elle pas au fond une utopie ? C'est Bainville qui disait que l'international des rois n'existait pas. Et bon, Louis XVI s'est fait couper la tête, Marie-Antoinette s'est fait couper la tête et beaucoup d'autres encore. Et qu'au fond, l'Europe n'a levé le petit doigt qu'à partir du moment où la Révolution a constitué une menace territoriale.
L'international des rois ne va exister que dans un éclair fugace. Lorsque le roi et sa famille seront arrêtés à Varennes, et il faut percevoir le symbole, la force d'un tel symbole sur des souverains au XVIIIe siècle. Léopold, qui est aussi le frère de Marie-Antoinette, Léopold va publier ce que l'on appelle la circulaire de Padoue, où il demande aux différents souverains d'Europe de bien vouloir se concerter sur une attitude à tenir face à la Révolution française et face à, je cite, « l'attentat inouï dont ont été l'objet le roi et la reine ». Les réponses sont tièdes, plus que tièdes. Entre-temps, le roi est réintégré dans le jeu constitutionnel, vous savez, par la fable qui constitue à dire que la fuite à Varennes n'aurait été qu'un enlèvement dont le roi et sa famille auraient été eux-mêmes les victimes. Donc le roi est réintégré dans le jeu constitutionnel. Et à ce moment-là, les souverains qui avaient néanmoins prévu de se réunir, en particulier l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, se retrouvent à Pilnitz en août 1791, sur les états de l'électeur de Saxe. Et à Pilnitz, on va publier une déclaration où on se rend bien compte que les monarchies européennes n'ont aucune envie de s'impliquer dans les affaires de France. Donc l'international des rois, vous avez tout à fait raison, à cette époque-là, n'est qu'une figure du discours qui va être très habilement utilisée par les Brissotins.
Alors, il y a un passage qui m'a marqué dans votre ouvrage, vous citez un moment Roubaud. Vous dites, dans une lettre à son frère Roubaud, donc un personnage révolutionnaire, rapportait que la guerre, je cite, était généralement désirée, les uns la demandant par bêtise, les autres l'attendant par spéculation, et parce qu'ils voyaient dans ce fléau un moyen de parvenir, d'autres enfin la désiraient, comme le terme de l'incertitude dans laquelle on vivait. Enfin, on voit les guerres révolutionnaires comme une guerre de libération extérieure, mais à lire Roubaud, on n'a beaucoup plus l'impression que c'est une guerre de libération intérieure. Il s'agit de perpétuer la révolution et d'ailleurs, beaucoup plus loin dans votre ouvrage, il y a tout un chapitre qui s'appelle « S'approprier l'esprit de la révolution ». On relance la machine révolutionnaire.
Oui. Alors, le thème de la révolution devant propager un idéal à l'extérieur, vous avez vu que dans l'ouvrage, je n'y consacre que quelques pages parce que je considère qu'il faut le relativiser. C'est un thème, c'est un construit, comme on dirait aujourd'hui, postérieur à l'événement. En 1700...
C'est un peu comme les armes de destruction massive.
Un petit peu, si vous voulez, toute proportion gardée. Donc, l'idée des révolutionnaires en 1792, ce n'est pas de propager la révolution hors des frontières. Et l'une des preuves que nous avons de cela, c'est que la guerre qui est envisagée aussi bien par Brissot, aussi bien par le ministre des Affaires étrangères qui fonctionne alors de concert avec les Brissotins qui est Dumouriez, c'est une guerre extrêmement limitée. C'est une guerre de faible ampleur, ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération de police, pour montrer que l'on fait quelque chose, mais pour immédiatement se recentrer sur ce qui est le cœur des choses, c'est-à-dire l'action en France, pour s'emparer de manière certaine des leviers du pouvoir.
Vous écrivez « Il faut dire que l'impression de désordre et d'anarchie était si intense » que nombre de contemporains n'envisagèrent leur salut que dans la fuite en avant.
Oui, c'est un petit peu ça. Vous savez, c'est toujours ce débat pendant la Révolution. C'est un débat qui va sans cesse hanter la Révolution française. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter ? Est-ce qu'il faut repartir de l'avant ?
Mais c'est vraiment un des apports de votre ouvrage, puisque bon, c'est vrai que j'ai bien oublié mes cours d'université d'il y a 15-20 ans, mais il y a cette incertitude qui pèse sur la Révolution. Et au fond, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne petite monarchie constitutionnelle et que les choses en resteront là. Mais non, il y a véritablement une volonté de relance, et cette volonté de relance, elle est le fait d'une minorité.
Elle est le fait d'une minorité, mais tous les acteurs ont leur part de responsabilité. Les modérés qui vont se retirer du jeu parce qu'au bout d'un moment, ils sont tout simplement marginalisés de la Révolution. On n'a pas le temps de reconstituer dans le cadre de cette émission la manière dont la scission du club des Jacobins a fait que la partie que l'on a appelée ensuite le club des feuillants, qui étaient ceux qui, au départ, amenaient un élément de modération, de constitutionnalisme dans la Révolution, ont fait l'objet de ce que l'on appellerait aujourd'hui un effet d'éviction de la Révolution. Ceux qui avaient été les éclaireurs de la Révolution se trouvent subitement placés à son arrière-garde. Un certain nombre d'opportunistes aussi, à ce moment-là, vont trouver que leur propre gloire peut être servie par l'événement. L'attitude du roi et de la reine est une attitude ambiguë, puisque d'un côté, alors c'est, Louis XVI est bien sûr un personnage très complexe, on a beaucoup de mal à décoder la manière dont il fonctionne.
Il y a, vous le montrez aussi très bien, c'est-à-dire qu'il y a le Louis XVI de façade, celui qui déclare la guerre, et il y a le Louis XVI intérieur, enfin avec sa conscience. Et on sent qu'il est tout simplement réservé, beaucoup plus en retrait par rapport à ses décisions. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de, je ne vais pas dire de manipulation, mais il devient un peu le jouet de la Révolution ?
Je crois que c'est un tout petit peu plus complexe. Je crois que Louis XVI lui-même est partagé entre les deux sentiments, qui est son pacifisme foncier, l'idée qu'il se fait de sa fonction, c'est-à-dire de celle de père de ses sujets, et donc sa hantise est celle d'une guerre civile qu'il veut éviter à tout prix. Mais d'un autre côté, Louis XVI est aussi l'objet de sollicitations, que ce soit sa femme, l'entourage de sa femme, qui le pousse à être beaucoup plus actif et qui se dit que finalement, là aussi, le calcul d'une guerre limitée pourrait se révéler positif pour la monarchie, c'est-à-dire immédiatement défaite des armées révolutionnaires, parce que c'est ce qu'on attend au début. La monarchie pense que les armées révolutionnaires, entièrement désorganisées, vont être défaites par les monarchies et que donc le roi apparaîtra à ce moment-là comme un salut naturel. Donc Louis XVI peut aussi, en un certain sens, faire le calcul de la guerre comme les autres acteurs du paysage révolutionnaire de l'époque.
Vous vous rappelez, à juste titre, là encore, je l'avais oublié peut-être parce qu'on a une vision un peu trop romantique des choses, et on se disait, Varennes, c'est vraiment une coupure, c'est une coupure chronologique, et puis après, bon, ben, le roi est prisonnier. Mais vous écrivez qu'il n'est pas si prisonnier que cela, et il a accepté la Constitution, donc le 13 septembre 1791, je vous cite, « Le souverain avait même paru effacer le souvenir de Varennes aux yeux d'une partie de l'opinion. » Donc le lien n'était pas rompu entre la France, la nation et le roi.
Et c'est un lien qui est difficile à trancher, c'est un lien pluriséculaire qui unit la nation au roi, le peuple au roi. Et en dépit de l'affaiblissement, on va dire, de l'image de la monarchie, Louis XVI conserve un pouvoir de fascination à l'époque. Le roi conserve un pouvoir de fascination qui n'a rien d'illusoire. Alors maintenant, vous dites qu'il n'est pas prisonnier. Là aussi, je relativiserai le propos. Toute la Révolution, en tout cas la Révolution parisienne, se joue dans un étroit quadrilatère qui aujourd'hui peut être repéré physiquement dans les jardins des Tuileries, où nous avons l'ancien palais des Tuileries, où se trouve le roi, qui finalement est empêché d'aller ailleurs, physiquement. L'Assemblée nationale qui se trouve dans la salle du manège, aussi disparue aujourd'hui, qui serait au croisement de la rue de Rivoli et de l'actuelle rue de Castiglione, l'hôtel de ville qui n'est pas très loin, le couvent des Jacobins, le couvent des Feuillants, et tout cela, tout se passe là, et le roi est confiné dans ce petit espace. Donc on peut parler en un sens aussi d'un roi captif de la Révolution.
Il y a vraiment une unité de temps et de lieu au fond. Franck Attard, nous nous retrouvons dans un instant.
"1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée donc aux guerres, à la guerre révolutionnaire. Donc Franck Attard, je vous reçois, vous êtes historien, vous avez publié le livre « Aux armes citoyens » dans la collection « L'univers historique » aux éditions du Seuil, « Aux armes citoyens, naissance et fonction du bellicisme révolutionnaire ». Il y a un aspect, un autre aspect qui m'a marqué, nous avions laissé nos auditeurs sur l'idée, donc au fond ce bellicisme va couper, va rompre le lien entre le roi et cette assemblée et ses sujets. Ce qui m'a étonné également, c'est que à plusieurs reprises, pour ce qui est du bellicisme révolutionnaire, il y a une forme de quasi-religieuse, une dimension quasi-religieuse comme une sorte de guerre sainte que l'on veut mettre en branle. Cet aspect religieux est aussi important parce que on voit la Révolution, alors on connaît tous le culte de l'être suprême, on le voit comme une sorte de petit gadget, mais dans les idées, alors qu'il y a soi-disant le culte de la raison, eh bien nous avons en miroir une véritable volonté, une volonté guerrière, sacro-sainte.
Oui, même si je suis persuadé que pour une bonne part, le transfert du religieux dans cet espace-là, l'espace diplomatique, est largement rhétorique. C'est-à-dire que l'on se convainc de la sainteté de la cause pour lui donner davantage d'attrait à l'égard de ceux que l'on essaie de convaincre. Mais de manière plus générale, je crois que la Révolution affronte un problème qui est capital, qui est que la France a vécu dans une forme de religiosité pendant des siècles, et que donc, si la Révolution veut prendre la place de ce qui existait, il convient de substituer une autre religiosité à celle qui était présente précédemment. Je vais vous donner un exemple là très précis. La première fois où la Constitution est amenée dans le cadre de l'Assemblée nationale. On amène la Constitution un peu à la manière dont on imagine que les anciens Hébreux transportaient l'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on fait entrer le palladium, le nouveau palladium, dans le cadre de la salle du manège. Les députés se découvrent religieusement à l'entrée de la nouvelle idole et immédiatement s'engage le débat. Doit-on accorder au roi le même type de déférence que celle que l'on vient d'accorder à la nouvelle manifestation papier de la volonté populaire ? Donc là, vous avez clairement le transfert du sentiment religieux d'un espace vers un nouvel espace.
Mais alors, je voulais aussi vous amener sur le fait que je lisais encore dernièrement un livre intitulé « La morale et la guerre », donc une réflexion sur la notion de guerre juste, et un des intervenants du livre place vraiment très précisément la Révolution comme un tournant idéologique dans la mesure où naît la guerre idéologique.
Oui, alors qu'est-ce qu'on appelle une guerre idéologique ? Est-ce qu'une guerre juste est nécessairement non idéologique aussi ? On peut très bien considérer que même dans l'acception augustinienne ou dans l'acception thomiste de la guerre juste, l'idéologie puisse faire partie de la juste cause aussi. Parce que tout dépend après de ce que l'on définit par idéologie. Si on veut attribuer à idéologie une connotation nécessairement négative, alors là, peut-être que la Révolution française marque un tournant, c'est-à-dire une dissociation entre le juste et une certaine forme de message. Mais moi, je n'en suis pas absolument convaincu.
Mais dans ses conséquences, dans sa dimension exterminatrice, si je puis dire, si vous placez la Révolution, les guerres de Révolution, comme une forme d'acte de naissance des tueries du XXe siècle, enfin, Aron parlait des religions du XXe siècle en parlant du communisme et du nazisme, qui ont été des machines de guerre idéologiques.
Oui, alors là, je crois qu'il ne faut pas prêter à la Révolution française davantage que ce qu'on peut lui donner non plus. Ce qui va permettre aussi cette montée aux extrêmes, c'est la modification des caractères techniques de la guerre. C'est-à-dire, on peut tout à fait envisager que des guerres qui, par exemple, prenons les guerres de religion, alors que ce soit sous la forme des croisades, si vous le souhaitez, ou sous la forme des guerres de religion, même ce qui a pu donner la guerre de 30 ans en Europe, avec d'autres moyens que ceux dont disposaient les soldats à l'époque, peut-être que l'on aurait assisté aussi à des tueries d'une ampleur égale. Maintenant, dire que la Révolution française est directement à l'origine des totalitarismes du XXe siècle, puisque c'est la pente là vers laquelle on peut se diriger si on suit cette ligne-là. Alors, la Révolution française, par l'intermédiaire du phénomène particulier, qui est le phénomène terroriste, les quelques mois de la terreur, je crois qu'il est difficile de réfuter cette réalité, mais je crois que là aussi, comme il n'y a pas d'inévitabilité en histoire, c'est une étape parmi d'autres étapes qui ont fait que ce construit particulier qui est les totalitarismes du XXe siècle a pu éclore, la Révolution française n'étant que l'une des stations de cette éclosion finale.
Alors, avant de venir à votre conclusion qui est vraiment très importante, et je voudrais prendre du temps et m'y arrêter assez longuement, il y a deux idées de manière peut-être très courte. C'est qu'il y a un de vos chapitres se concentre sur le fait que cette assemblée ignore complètement les réalités, la réalité militaire et la réalité financière. Vous dites au début de votre ouvrage, vous citez un personnage qui dit « mais les caisses sont pleines ».
Oui, c'est Clavière qui, lors du débat sur la déclaration de guerre du 20 avril, alors un député courageux qui est le seul à avoir parlé ouvertement contre la déclaration de guerre au cours de la séance du 20 avril, qui était Becquet, qui avait été mandaté en quelque sorte par les modérés de l'Assemblée, dit « mais nous n'avons pas de numéraire pour faire la guerre ». Et là, illustration de la manière dont fonctionne la législative, que l'on appellerait aujourd'hui de l'intox, immédiatement Cambon, qui passe pour être le spécialiste des finances à l'époque, se lève et dit « mais non, de l'argent, nous en avons plus qu'il n'en faut ». Alors qu'en réalité, on sait pertinemment que les caisses du Trésor sont vides.
Alors, il y a cet aspect-là, et vous reprenez aussi à votre compte la fameuse thèse de René Girard sur le bouc émissaire.
Oui, disons que je fais référence à René Girard, et tout simplement pour montrer, dans la continuité de ce que je vous expliquais tout à l'heure, que pour justifier ce grand complot où les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur se réunissent pour essayer d'abattre la révolution, il est évident qu'on ne peut pas identifier précisément les responsabilités. Dans un phénomène révolutionnaire d'une telle ampleur, il est difficile d'isoler les causes. Donc, l'idée du bouc émissaire, c'est-à-dire de trouver des catégories génériques d'hostis, d'ennemis, c'est la façon dont Brissot et ses partisans ont fonctionné, avec un très grand succès.
Donc j'arrive sur cette conclusion. Vous posez la question que se posent souvent les historiens, celle de l'Uchronie. Que se serait-il passé si ? Est-ce qu'il y a une fatalité ? Ce qui renvoie encore une fois aux raisons même et à la tentative d'explication. Le pourquoi, nous avons parlé de Sorel. Quelles pourraient être, d'un point de vue général, les grandes clés d'explication de l'événement ?
Alors, d'abord, pour revenir à cette question de la fatalité, si j'évoque cette question de la guerre inévitable, c'est pour opérer une critique de l'historiographie, qui longtemps a considéré l'événement comme étant inévitable. Or, je considère que pour l'historien, la catégorie d'inévitabilité n'a pas de sens.
C'est-à-dire, nous sommes d'accord.
Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que peut faire l'historien, c'est très modestement procéder à un inventaire des faits, proposer une explication possible de ces faits-là, tout en gardant présent à l'esprit que cette explication ne vaut que ce qu'elle vaut dans le contexte dans lequel elle est proposée. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je prends ces précautions pour dire que, en gros, si je devais exprimer ça d'une manière un peu polémique, je n'irai pas me battre pour défendre les thèses de mon livre. Ce ne sont que des thèses universitaires qui valent dans le contexte et les hypothèses qui ont permis leur formulation.
Il y a une idée que j'ai retenue particulièrement, c'est le facteur de l'irrationnel.
Le facteur de l'irrationnel, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est tout simplement, je l'ai appelé à un moment irrationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire simplement que c'est l'anti-inévitabilité. Si vous dites que quelque chose est inévitable, c'est que vous parvenez implicitement à recomposer toute la chaîne causale qui part d'un point d'origine et qui aboutit à l'événement. Or, je dis, cela, pendant la Révolution française, ce n'est pas possible. Il n'y a que des sauts, des successions chaotiques d'événements qu'on ne peut réunir sur une chaîne logique qu'a posteriori et que de manière subjective. C'est ça que ça signifie. Et ça me rappelle une discussion justement avec François Furet que je vais ramener à nouveau dans le cœur de cette émission. François Furet qui considérait fort justement, à mon sens, qu'il n'y avait pas de grands hommes dans la Révolution française, qu'il n'y avait qu'un grand événement. Et pourquoi il n'y avait pas de grands hommes ? Parce qu'aucun n'a été en mesure, mis à part peut-être Bonaparte, aucun n'a été en mesure de tenir les rênes du quadrille pendant plus de quelques mois. Donc ce qui fait que fatalement, on ne peut pas relier tout cela à une même chaîne. C'est-à-dire c'est une succession d'événements qui sont chaotiques et où à chaque fois, on retrouve un nouvel orige à la tête du chariot.
La part de hasard ?
Là aussi, je ne sais pas ce qu'est le hasard. En tout cas, j'utilise aussi le mot. Le hasard, c'est peut-être le fait que les parties en présence ne se comprennent pas. C'est le fait qu'à un moment donné, il aurait suffi peut-être de tenir tel discours plutôt que de tenir tel autre et de se montrer peut-être un peu plus composant, un peu moins cassant, d'essayer de comprendre la manière dont l'autre partie réfléchissait. Mais peut-être aussi qu'au sein du groupe belliciste en France, on n'avait pas envie d'essayer de comprendre. Parce qu'on le comprenait parfois très bien. On le voit dans les conversations privées dont on a trace.
Mais justement, est-ce que Brissot n'incarne pas cette volonté, cette machine révolutionnaire dont on voit les prémices idéologiques dans les racines intellectuelles de la Révolution française, le développement de l'individualisme, etc.
Sans doute que Brissot, comme ces autres opportunistes que je mentionnais tout à l'heure, est avant tout à la recherche de sa propre gloire. Même si un certain nombre d'auteurs ont voulu nous présenter Brissot comme étant un personnage très idéaliste, en se basant en particulier sur certains des engagements qu'il avait pu avoir avant 1789, contre l'esclavage en particulier, qui sont des engagements très honorables, mais qui ne discréditent pas pour autant la thèse qu'une fois confronté à l'hypothèse d'être lui-même aux commandes du pouvoir, Brissot ait pu se laisser griser. Et moi, je pense que ça explique en grande partie le fonctionnement du groupe brissotin. C'est une manœuvre pour la conquête du pouvoir, aussi prosaïquement que cela.
Donc la guerre est faite par une minorité, au fond.
La guerre est un prétexte. La guerre est un discours que l'on utilise en vue de certaines fins. Cette fin, c'est conquérir le pouvoir, c'est se débarrasser de la monarchie, c'est instaurer un régime républicain en France.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Franck Attard.
C'est moi qui vous remercie.
D'avoir répondu à notre invitation. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre livre, donc aux Armes citoyens, naissance et fonction du bellicisme révolutionnaire, un ouvrage paru au Seuil. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.